Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui glorifient Jésus-Christ. Je répète, le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui glorifient Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 4 et le thème sera le Consolateur promis, c'est le Saint-Esprit. Chers amis, j'aimerais vous parler d'un sujet qui passe pour être assez controversé et qui est basé sur le deuxième chapitre du livre des Actes des Apôtres. Je n'ai toutefois nulle intention d'en faire l'objet d'une controverse, mais plutôt un objet d'utilité. Je ne crois pas à une répétition de la Pentecôte, mais à une continuité de la Pentecôte, et permettez-moi de vous dire qu'il y a une grande différence entre les deux. J'aimerais essayer de découvrir avec vous les éléments durables de la Pentecôte tels que décrits dans le livre des Actes. Qu'est-ce qui est venu et qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui est venu et qu'est-ce qui n'est pas resté? Maintenant, comme je l'ai déjà mentionné, je ne crois pas que la Pentecôte doit être répétée, mais qu'elle doit se perpétuer. Et je ne pense pas que la Pentecôte est venue et puis que tout à coup elle est partie, mais qu'elle est venue et qu'elle est restée, et que nous la vivons encore aujourd'hui. Si seulement nous puissions savoir tout cela. Voyez-vous, il est vrai que la Pentecôte, comme toute expérience religieuse, comportait des éléments extérieurs donc variables. Dieu ne prête pas beaucoup d'attention à ce qui est extérieur. Nous devrions permettre au Saint-Esprit de nous enseigner que Dieu attache peu d'importance aux aspects extérieurs. Puis il y a les éléments qui sont intérieurs et qui viennent de l'Esprit Saint. Ils sont permanents et ils sont toujours à peu près les mêmes. Il y a aussi des éléments qui sont accessoires et donc d'importance relative. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne sont pas importants, mais je dis qu'ils ne sont pas d'importance cruciale. Finalement, il y a bien entendu les éléments fondamentaux et par conséquent d'importance vraiment vitale. Ayant lu les faits historiques en Actes chapitre 2, que s'est-il produit dans la chambre haute à Jérusalem ce jour-là? Il y avait là environ 120 personnes qui étaient réunies dans cette chambre, quand tout à coup il y a eu un bruit dans la pièce. C'était comme si un vent violent se mettait à souffler. Remarquez bien qu'il n'est pas du tout dit qu'un vent ou une tempête épouvantable à 200 à l'heure, j'exagère, impétueux, a traversé la maison et a tout balayé sur son passage. Vous est-il jamais arrivé d'entendre un son qui vous donnait l'impression qu'un vent violent soufflait quelque part? C'est une impression. Voilà ce que cela signifie comme le son d'un vent impétueux. Pendant qu'ils se demandaient ce que cela pouvait bien être, ils ont soudain vu apparaître des langues pareilles à des flammes de feu qui se sont séparées les unes des autres pour se poser sur chacun d'eux. Ce feu séparé en langues était la manifestation visible de la présence de Dieu. Et c'était une à une des langues qui se sont posées sur chacun d'eux. La Sainte Bible parle de langues de feu. Or, si vous allumez une bougie, vous constaterez que la flamme prend la forme d'une petite langue, c'est-à-dire qu'elle est large à la base et va en se rétrécissant jusqu'à devenir une fine pointe. C'est tout ce que cela vraiment signifie. Et il n'y a ici aucune allusion à un langage quelconque. Il est seulement dit que les langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. C'est à peu près tout ce qu'il y avait donc de spécial, excepté qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues et que les gens qui étaient présents pouvaient les entendre et les comprendre parler dans leur langue connue, car il y avait des gens de différentes nations, de différentes contrées et de différentes ethnies et donc de différentes langues. À la suite de cet événement historique de la Pentecôte, qu'est-il arrivé qui ne peut jamais plus se répéter ? Eh bien, permettez-moi de vous donner ici, après tout cela, simplement quelques faits. Premièrement, on y voit la présence physique de toute l'Église qui là est réunie dans un même lieu. Cela va donc être possible du fait qu'il n'y avait alors qu'environ 120 chrétiens. Cet événement ne pouvait donc se répéter par la suite, car en cette seule journée, plus de 3000 personnes sont nées dans le corps de Christ, et à une autre occasion, près de 5000 personnes sont venues à Jésus-Christ, et en une seule fois, portant le nombre total des croyants maintenant à 8000. Je suis sûr qu'on aurait pu trouver dans tout Jérusalem un endroit assez vaste pour asseoir ou même pour accueillir 8000 personnes. Ce n'est pas dit. Pendant que l'Évangile se répandait jour après jour, le Seigneur ajoutait journellement à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et finalement, le nombre de chrétiens est devenu si grand qu'aucun auditorium au monde n'aurait pu les contenir tous. Donc, la présence physique de tous les croyants en un même lieu ne s'est jamais répétée depuis là. Voilà donc une chose qui s'est passée à la Pentecôte et qui ne s'est jamais reproduite. Bien sûr, il y a eu des choses dans certaines parties de notre Terre, de notre planète, en Amérique surtout, où il y a eu des événements extraordinaires. C'est vrai. Et je ne veux pas faire une polémique là-dessus. Mais autant que je sache, par l'histoire de l'Église et grâce à une lecture approfondie, le bruit d'un vent violent venant du ciel Eh bien, cela ne s'est jamais répété. Je n'ai jamais rien lu au sujet d'une telle expérience qui se serait reproduite parmi les frères moraves ou parmi les méthodistes, les presbytériens, les anglicans, etc., ni au sein d'aucune assemblée chrétienne autre que ce premier groupe de croyants de la Pentecôte. J'ai entendu dire que lorsque Dwight Moody a rassemblé les chrétiens, il les a amenés sous une voûte de pin dans la partie orientale des États-Unis et les gardant là pendant plusieurs jours, au bout desquels il ne s'est rien passé. Alors Moody a été obligé de se lever devant toute l'assemblée et dire « L'assemblée se termine demain et nous ne pouvons pas retourner chez nous sans être remplis de l'Esprit Saint. Et essayons de nouveau, c'est notre devoir, et espérons en Dieu. » Alors ils se sont retournés sous les pins avec toute leur foi et leurs espérances. Et enfin là, il est vrai, l'Esprit Tout-Puissant est descendu sur eux. L'historien nous dit que le jour suivant, quand ils ont pris des trains dans différentes directions, eh bien, partout où ils sont passés, ils étaient comme les renards de Samson, lâchés dans les champs et mettant le feu partout sur leur passage. Le Saint-Esprit était donc venu. Alléluia. Mais il n'y avait là pas un bruit d'un vent violent. Cet événement de la Pentecôte ne s'est donc pas reproduit par un vent violent. Pas plus n'ai-je lu nulle part dans l'histoire chrétienne, qu'il y aurait eu une autre manifestation d'un grand feu séparé en flammes. Je veux parler ici de contes rendus sérieux et qui sont dignes de confiance venant de chrétiens honorables qui ne se plairont pas à exagérer le récit de leur expérience. Donc, dans aucun récit, je n'ai pu trouver qu'il y aurait eu la manifestation d'une grande flamme de feu qui se serait séparée et qui se serait posée sur les croyants. Je n'ai jamais lu non plus d'ailleurs, ou à un autre moment, que les personnes faisant partie d'un groupe de croyants se soient tout à coup mises à parler dans une langue que chacun pouvait comprendre sans l'aide d'un interprète. Or, c'est exactement ce qui s'est passé au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Je ne trouve donc mention d'aucun autre événement, ni aucun lieu où des personnes appartenant à des groupes parlant 17 langues différentes, de différentes régions, pouvaient entendre parler les gens tout en sachant et en comprenant de quoi il était question, et ce, sans le concours d'un interprète. Je dis bien sans le concours d'un interprète. J'affirme donc que tous ces éléments du jour de la Pentecôte ne sont, de toute évidence, jamais reproduits, parce que, dans chaque cas, il s'agissait de manifestations extérieures. Le parler en langue était donc une manifestation extérieure, tout comme l'était le bruit et la compréhension des langues étrangères. Ces manifestations ne se sont jamais reproduites et n'ont jamais eu besoin de l'être. En voici du reste l'explication logique. Si ces choses étaient nécessaires à l'Église chrétienne et à la continuation de ce qui s'est produit à la Pentecôte, elles seraient considérées comme essentielles et fondamentales. Si elles étaient nécessaires pour éclairer l'Église et que pourtant elles ne se sont pas répétées, alors l'Église doit avoir cessé d'exister le jour même où elle est née, ou tout au moins au moment de la mort de tous ceux qui étaient présents à ces manifestations-là. Donc, de toute évidence, ces choses ne constituaient pas les principes de base du christianisme. Elles ont bel et bien eu lieu, d'accord, mais elles étaient des manifestations, je répète, extérieures et occasionnelles. Elles étaient des éléments qui appartenaient à ce moment-là, à ce moment historique particulier. D'autre part, que s'est-il passé ce jour-là qui est resté et qui n'a pas disparu au bruit du vent, à la vue du feu et à la compréhension simultanée des 17 langues? Autrement dit, quel est l'élément éternel et durable de la Pentecôte? Est-ce que quelque chose avait été donné? Une garantie avait-elle été déposée? Qu'est-ce qui est venu? Et qui est de nature intérieure, céleste, permanente et durable? Je répète, une garantie avait-elle été déposée? Qu'est-ce qui est venu et qui est de nature intérieure, céleste, permanente et durable? Alors, afin de découvrir quel était cet élément-là, nous devons trouver ce qui avait été vraiment promis. Selon Saint Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus a dit: « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Avez-vous noté Saint Jean 14, verset 16? Je répète, Jésus a dit: « Et moi, Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Dans Saint Jean chapitre 16, verset 14, Jésus a dit encore: « Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Voici donc quelle était la promesse. Quelqu'un viendrait qui aurait l'autorité, qui aurait le pouvoir et la capacité de rendre Jésus-Christ réel à tous ceux qui croyaient. Souvenez-vous maintenant de ce qui s'est produit quand le Saint-Esprit est venu et est descendu sur ceux qui étaient réunis. Voici ce qui s'est passé. L'apôtre Pierre a sauté sur ses pieds pour dire que ces hommes n'étaient pas du tout ivres. Je dis bien, il a dit, ces hommes ne sont pas ivres, mais qu'une chose merveilleuse venait de leur arriver, car Dieu a fait Seigneur et Jésus-Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et l'apôtre Pierre continue et il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu. Jésus l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Dans Saint Jean chapitre 16, Jésus a déclaré aussi « Je vous dis la vérité, je vous l'enverrai. » Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La présence de l'Esprit Saint est donc promise pour montrer aux pécheurs leur péché et aux croyants Jésus-Christ. Jésus avait dit, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La définition du mot puissance comporte le sens d'avoir la capacité de faire. Étant donné que c'est le mot grec duquel dérive le mot dynamite, eh bien certains frères essayent de se persuader que le Saint-Esprit est en quelque sorte de la dynamite. Oublions que cette façon de voir est tout le contraire de la réalité. Si le mot dynamite doit son nom au mot grec, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit et la puissance de Dieu n'ont pas hérité leur nom du mot dynamite, mais pas du tout. La dynamite a été découverte il y a environ 200 ans. Mais le mot grec, d'où nous vient le mot puissance, se situe à l'époque de Jésus-Christ. C'est pas du tout pareil. Et il signifie la capacité de faire. Je dis bien la capacité d'entreprendre, de faire. Et rien de plus. Prenons comme exemple le cas d'un homme qui se saisit d'un violon. Un violon. Et il se met à jouer sur ce violon. Il n'arrive malheureusement à en tirer que des grincements et des sons rauques, car cet homme ne possède de toute évidence pas la capacité de faire. Mais voilà qu'un autre homme s'empare du même violon et se met aussitôt à jouer des airs mélodieux et riches. Un homme monte sur le ring pour se battre, mais il n'arrive péniblement à lever les mains. Et c'est maintenant au tour de son adversaire de faire son entrée. Or ce dernier, il a la puissance de faire. Il a la puissance de faire. Et bientôt, celui qui n'avait pas la capacité de faire, et on va dire ça gentiment, dort maintenant sur le tapis. Vous avez compris ce que ça veut dire, il est KO. C'est l'homme qui possède donc la capacité de faire qui sera le gagnant. Ce n'est donc pas autre chose que la capacité dynamique de faire ce qu'il nous a été donné de faire. Vous recevrez la capacité de faire et elle viendra en vous. Si vous êtes un gagneur d'âme, eh bien vous aurez la capacité de gagner des âmes. Gloire à Dieu. Si vous êtes prédicateur, vous aurez la capacité de rendre la parole de Dieu compréhensible. Quoi que vous fassiez au nom de Dieu, il vous donne la capacité de le faire. Il vous donne la capacité d'être victorieux et de vivre une vie droite, de regarder à Jésus et de vivre avec le ciel en perspective. C'est cela, la capacité de faire. Telles sont donc les choses vitales, essentielles et éternelles qui se sont produites à la Pentecôte et qui sont venues et qui sont restées. Maintenant, le vent, le feu et l'apparition, ce sont des manifestations qui ne se sont jamais plus renouvelées, autant que je sache. Mais le Consolateur, il est venu, il a rempli les croyants, tous les croyants qui croient en Jésus-Christ. Il est venu pour demeurer en eux. Il est venu pour rendre Jésus réel et pas seulement une fiction. Il est venu pour leur donner la capacité morale intérieure afin qu'ils puissent faire ce qui est droit. Et la capacité intérieure aussi pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà donc ce qui est resté et qui est toujours présent. Si nous ne possédons pas l'Esprit Saint de Dieu qui nous rend capables, c'est que on nous a mal enseigné. On nous a un peu effrayé à son sujet, quelque part en cours de route. Il y a eu un enseignement de la Bible où un chrétien a dû nous faire peur au sujet du Saint-Esprit. C'est évident. Voyez-vous, notre devoir est surtout de nous aimer les uns les autres avec nos différences et avec nos différences aussi de comprendre certains passages de la Sainte Bible. Et je ne ferai jamais des remarques désobligeantes, même pas à la personne qui m'a dit, voyez-vous, quand je vais aux toilettes, eh bien, même quand je suis sur le trône de la toilette, vous l'avez compris, je continue de parler en langue. Pendant que je fais pipi, je parle en langue. Je ne dirai jamais à un chrétien, si tu ne parles pas en langue, tu ne seras jamais accepté au ciel, comme je l'ai entendu personnellement. Or, je vous pose la question, les grands hommes de Dieu, du 18e, du 19e, du 20e siècle, Spurgeon, Wesley et des quantités d'autres, et tous ceux qui ont écrit des commentaires bibliques exceptionnels, ils ne seront donc pas au ciel? Est-ce possible qu'ils ne seront pas au ciel? Parce que, soi-disant, ils n'ont pas parlé en langue. Mais cela, chers amis, ce n'est pas ma conviction du tout. On a beau avoir des théories différentes et donner des explications à tout vent, même de ce que je viens de vous dire, j'ai entendu des explications. Voyez-vous, nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Supposons, et je dis ça avec mon humour un peu caustique, que je ne parle pas en langue. Supposons encore qu'il y ait au ciel des premières classes, des deuxièmes classes et des troisièmes classes. Je serai peut-être dans les troisièmes classes, va savoir. Trêve de plaisanterie. Revenons à notre texte. Voyez-vous, c'est parce qu'on a déjà eu affaire à tant de comportements étranges que les enfants de Dieu sont devenus craintifs. Et dès que vous vous mettez à parler de ce sujet, ils commencent à prendre la fuite en s'exclamant « Non, merci bien, très peu pour moi. » Eh bien, mon cher frère, ma chère sœur, je ne permets pas à la peur de me priver de l'héritage qui me revient de droit. Je ne veux pas être dépossédé du droit que j'ai acquis de naissance, tout simplement parce que d'autres n'ont pas su que faire de ce droit ou parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui n'a rien de commun avec ce droit de naissance. Je veux tout ce que Dieu a pour moi. Et j'aimerais maintenant souligner quelque chose. Voyez-vous, à la naissance de Jésus-Christ, beaucoup de choses extérieures se sont produites qui n'étaient pas de la plus haute importance. Je ne dis pas qu'ils n'avaient aucune importance, je n'ai pas dit ça. Quand Christ est né, les anges en ont été avisés et ils sont venus, les anges, mais même s'ils n'étaient pas venus, que croyez-vous? Croyez-vous que Christ serait né quand même? Eh bien, moi, je le crois. Quand Christ est venu, il est né dans une crèche et sa naissance a été accompagnée de toutes sortes de circonstances extérieures. Mais un fait d'importance capitale n'a jamais disparu, c'est qu'il est né, il est venu dans le monde. Il est devenu chair et il a habité parmi nous. Il est venu et il a pris sur lui toute notre nature humaine. Et la Sainte Parole a été faite chair pour racheter tout le genre humain à la croix. Tous ceux qui ont accepté sa main tendue. Cet événement a bel et bien eu lieu et demeure à jamais un fait accompli. Les autres circonstances extérieures ne sont pas tellement importantes. Ce sont les choses intérieures qui comptent. Des milliers de gens ont senti la puissance rédemptrice de Jésus-Christ sans pour autant jamais avoir vu les anges. Et des milliers d'autres ont été touchés par sa puissance de guérison sans jamais avoir vu les mages. J'en déduis donc que les significations éternelles de Actes chapitre 2, c'est que le Consolateur est bel et bien venu. La divinité se tient maintenant parmi nous. Dieu s'est donné lui-même à nous, la quintessence de la divinité. Oui, en vérité, la divinité s'est répandue et il l'a répandue comme vous le voyez et que vous l'entendez. Je crois que nous avons atteint une période cruciale en ce qui concerne la vie et l'histoire de l'Église. Nous devons éviter que les fondamentalistes, par exemple, deviendront tout à coup des libéraux. Et la plupart des libéraux deviendraient des unitariens. Nous avons désespérément besoin de l'effusion du Saint-Esprit, évidemment. Et cela ne peut pas se produire aussi longtemps que nous, le peuple de Dieu, nous refusons de reconnaître que nous avons négligé de jouir de notre héritage. Dieu nous a promis une inspiration unique, une effusion céleste qui doit venir vers nous et prendre les commandes. Et cette inspiration doit être en nous ce que nous ne pourrons jamais être de nous-mêmes. Donc, pour être capable d'écrire des vers qui seraient comparables à ceux qui viennent de la plume de Shakespeare, il vous faudrait avoir l'esprit de Shakespeare, me semble-t-il. Donc l'intelligence de Shakespeare devrait pénétrer votre personnalité. Si vous vouliez composer de la musique comme Jean-Sébastien Bach, il vous faudrait avoir en vous l'esprit de Jean-Sébastien Bach. Si vous désirez être un homme politique de l'envergure d'un Churchill, vous devriez posséder l'esprit de Churchill. Autrement dit, si nous voulons vraiment reproduire Christ sur terre et être semblable à lui et le mettre en évidence, que va-t-il nous manquer de plus? La réponse est très claire. Nous devons avoir en nous l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Si nous voulons être les enfants de Dieu, l'Esprit du Père doit insuffler sa vie en nous et par nous. Voilà donc pourquoi il importe que nous ayons en nous l'Esprit Saint de Dieu. Voilà pourquoi l'Église doit avoir l'Esprit Saint de Christ. L'Église est appelée à vivre au-dessus de ses propres capacités. Elle est appelée à vivre à un niveau si élevé qu'il est impossible à aucun être humain de vivre de cette façon par ses propres capacités et par ses propres forces. Le plus humble des chrétiens est donc destiné à vivre tout simplement un miracle, une vie qui se soit moralement, spirituellement, si intense et si pure qu'aucun être humain n'a la capacité de faire cela. Donc seul Jésus-Christ peut le faire pour nous. Son désir est que l'Esprit Saint de Christ vienne vers son peuple. Ce souffle, cette effusion d'en haut nous influence mentalement, moralement et spirituellement. Pourquoi ne pas nous préparer pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir au milieu de nous par son Saint-Esprit. Je suis persuadé, oui, que cette œuvre pourrait bien être pour nous si nous mettions un frein à toute notre activité, si nous nous calmions un peu et si nous prenions le temps d'adorer Dieu en comptant sur lui. Sans doute ne serais-je pas bien vu si je vous rappelle que nous sommes une bande de chrétiens charnels. Et pourtant, c'est bel et bien vrai que le corps de Christ est charnel. Le peuple de Dieu devrait être sanctifié, devrait être pur, droit, mais nous, nous sommes charnels. Nous le sommes dans nos attitudes, nous le sommes dans nos goûts et nous le sommes dans beaucoup de choses. Nos jeunes, bien souvent, ne se comportent pas du tout de façon respectueuse dans nos réunions chrétiennes. Nous avons à ce point déformé nos goûts religieux que notre culte chrétien est, dans une large mesure, de l'exhibitionnisme pur. Nous avons désespérément besoin d'une manifestation d'en haut, car tous les sermons ne pourront jamais remédier à notre situation. Celle-ci ne pourra jamais être réglée tant que l'Église de Christ n'aura pas été confrontée de façon soudaine avec ce qu'un homme a appelé le mystère fantastique. Oui, le mystère de la personne de Dieu, la majesté de Dieu. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il nous révèle le merveilleux mystère qu'est Dieu et présente Dieu lui-même ainsi à l'esprit humain. Être mis en face de ce mystère fantastique, c'est dire adieu à notre irrévérence, c'est dire adieu à notre vie charnelle, à nos goûts religieux déformés. Oui, vraiment, c'est dire adieu à toutes ces choses. L'âme, alors, muette d'adoration, tremble jusqu'au tréfonds d'elle-même parce que le Saint-Esprit lui confère une félicité sans nul doute autre pareille. Nous ne pourrons jamais en savoir plus sur Dieu que ce que l'Esprit Saint nous a révélé. Nous ne pourrons jamais en savoir plus sur Jésus que ce que l'Esprit Saint nous a enseigné à son sujet. Car il n'y a que l'Esprit Saint à pouvoir nous enseigner. Ô Saint-Esprit, comme nous t'avons attristé, comme nous t'avons offensé, comme nous t'avons rejeté. C'est lui notre professeur. Et si ce n'est pas lui qui nous enseigne, eh bien nous ne pourrons jamais connaître Dieu, car il est notre lumière. Et si ce n'est pas lui qui fait jaillir la lumière, eh bien nous ne pourrons jamais boire. Il est le guérisseur de nos sourdes oreilles. Et s'il ne touche pas nos oreilles, nous ne pourrons jamais entendre. Il est possible pour des églises de fonctionner pendant des semaines, des mois, même des années, sans connaître ces vérités ou sans avoir été investi de l'Esprit Saint du Dieu vivant. Oh, mon cher cœur qui écoute maintenant, fais silence devant Dieu, prosterne-toi et adore-le au fond de toi. Voilà donc la nouvelle que j'ai pour vous. La divinité, elle est vraiment présente. Alléluia. La Pentecôte signifie que la divinité est venue vers l'humanité pour se donner à l'homme, que l'homme peut la respirer profondément, tout comme il respire l'air ambiant, afin de pouvoir être rempli de cette divinité. Être rempli de la plénitude de Dieu est comparable à une bouteille dans l'océan. Si vous enlevez le bouchon de la bouteille et que vous plongez celle-ci dans l'eau, eh bien vous aurez une bouteille qui sera remplie d'océan. La bouteille se trouve dans l'océan. Et l'océan se trouve maintenant, en quelque sorte, dans la bouteille. L'océan contient la bouteille. Mais voyez-vous, la bouteille ne contient qu'un peu de l'océan. Il en est ainsi du chrétien. Nous sommes remplis de la plénitude de Dieu, mais évidemment, il ne nous est pas possible de contenir Dieu tout entier en nous, étant donné que Dieu, c'est lui qui nous contient. Cependant, nous pouvons avoir de Dieu tout ce que nous pouvons contenir de lui. Si seulement nous savions cela, eh bien nous pourrions agrandir notre vase. Notre vase s'élargit au fur et à mesure de notre marche avec Dieu. La divinité, elle se trouve parmi nous. Si une personne célèbre, une personne qui serait une célébrité, honorerait de sa présence nos églises, eh bien les responsables de l'accueil ne sauraient que faire pour contenir les foules qui se presseraient à l'entrée. Eh bien, je vous dis que nous avons un personnage illustre au milieu de nous. Tout à coup, il vient du ciel et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La divinité, elle est donc descendue jusqu'à nous pour rester, non pas pour venir et repartir tout simplement, mais pour venir et pour y rester. Honte à nous d'ignorer ainsi la présence de la royauté parmi nous. Il y a ici beaucoup plus qu'une royauté terrestre. Nous avons le Seigneur des Seigneurs, nous avons le Roi des Rois, nous avons l'Esprit Saint et béni, et nous le traitons comme s'il n'était pas du tout présent. Nous lui résistons, nous lui désobéissons, nous l'éteignons parfois, et nous faisons des compromis avec tout cela. Voyez-vous, chers amis, en terminant cette étude, cette expérience peut ne pas vous sembler aussi spectaculaire et aussi haut en couleur qu'on vous l'avait peut-être enseigné, mais elle est exactement cela et rien de plus. Le Saint-Esprit est venu et il est encore ici. Tout ce qu'il veut, c'est que nous cédions, que nous obéissions, que nous ouvrions nos cœurs, alors il s'empresse de venir. Il s'empresse pour transformer et changer notre vie. Amen. Chers amis, avant de prier ensemble, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre encouragement personnel, mais aussi pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. Prosternez-vous très bas devant le Seigneur. L'adoration ne se confond pas avec la supplication, bien que toutes deux jaillissent spontanément du cœur de l'homme en sa présence. prosternez-vous dans l'adoration, conscient non seulement de son humilité, mais aussi de sa divine majesté, tandis que vous êtes à genoux et que humblement vous adorez Jésus-Christ. Il peut vous faire comprendre pourquoi il a assumé votre humanité. C'est afin de l'élever jusqu'à sa divinité. La terre a fourni au Seigneur ce qu'elle avait de plus précieux, un temple humain pour qui réside sa divinité. De son côté, il a apporté à la terre la majesté divine, l'amour divin, la puissance divine, afin que ses attributs trouvent à jamais une expression humaine dans la vie de tous ceux de ses enfants qui sont capables de l'accueillir et de lui ouvrir leur cœur et qui se montrent désireux de recevoir de Jésus-Christ leur vie. Ainsi donc, agenouillez-vous dans un esprit d'humilité, regardez vers le ciel et contemplez pour vous en pénétrer la majesté, la puissance, la beauté qui vous sont destinées. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de limite à ces dons, mais que c'est vous qui pouvez en mettre à votre acceptation. Réjouissez-vous donc en songeant aux merveilles qui sont les vôtres. Contemplez-les dans la prière et puis levez-vous dans sa force pour y accéder. Et maintenant, prions ensemble, si vous le voulez bien. Prions. Dieu puissant et juste, encore aujourd'hui, par ta volonté paternelle, tu as daigné nous bénir et nous protéger. Puissions-nous apprécier l'étendue de tes miséricordes et ne point y demeurer insensibles. Aide-nous, Seigneur, à résister à toute influence qui tendrait à nous éloigner de toi. Accorde-nous la grâce de pouvoir nous appuyer fermement sur ta parole sainte, afin qu'elle soit notre guide et notre lumière à chaque instant de notre vie. Que dans ton livre divin, nous puissions chercher aussi la parole des prophètes afin de nous y attacher et de puiser en elle des espérances qui soutiennent notre courage. Sachant que les saints hommes de Dieu étaient poussés par le Saint-Esprit, ont parlé, nous devons donc chercher dans les promesses qu'elles contiennent l'assurance de ta fidélité et de tes compassions envers nous. Un grand nombre de ces prophéties divines ont déjà été réalisées de manière à confondre le doute et l'incrédulité même, l'histoire des nations, celle en particulier du peuple que tu avais choisi et comblé de tes soins, ô Seigneur. La ruine et l'asservissement de ta ville, sainte, l'anéantissement total des puissances orgueilleuses et dominatrices qui ont disparu de la surface du globe, qui ont été balayées par le souffle de ta colère. Tu l'as déclaré dans ta sainte parole. Que le ciel et la terre passeront, mais cette sainte parole subsistera toujours et qu'il n'y aura rien en elle qui ne s'accomplisse, et cela, puisque à un seul iota et à un seul trait de lettre pourront jamais disparaître. Sachez donc porter vos regards au-delà du court espace de cette vie et contempler par la foi la réalisation des promesses et des déclarations du Seigneur. Ô Dieu, aide-nous par ton Saint-Esprit à nous confier en toi. Exauce nos humbles prières et garde-nous par ta toute puissante grâce, et que ton saint nom soit béni dès maintenant et à toujours. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous transmettre un ou deux chants, on peut bien dire d'un lointain passé. Figurez-vous, je crois que c'était en 1954. J'étais un tout jeune homme, évidemment, que j'avais enregistré ça. Bien sûr qu'il n'y avait pas les mêmes appareils, et le son n'est plus le même, évidemment, vous le comprendrez, avec le temps. Mais le Saint-Esprit vous donnera quelque chose, quand même, de merveilleux. Soyez donc bénis, parce que Dieu vous aime. Et étant donné que Dieu vous aime, il est de mon devoir, oui, de mon devoir, de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace et je vous embrasse tous. Et je vous dis, oui, je vous aime en Christ. Et soyez bénis.
Springs of living water did abound. Drinking at Quickening.